La quête de ses racines, une activité voire une passion qui anime des millions de Françaises et de Français désireux de connaître leurs origines lointaines, voire parfois de remonter très loin leurs fameux arbres généalogiques et découvrir des lignées remplies de surprises. Comment fonctionne une recherche généalogique? Combien de temps cela prend? Jusqu'où peut-on remonter dans la recherche des origines de nos aïeux? À l'occasion du Forum Régional de la Généalogie ce dimanche à Courcheverny qui se tient le 6 octobre donc, on en parle avec des membres du Cercle Généalogique du Loir-et-Cher. Bienvenue à tous et à toutes dans la lorgnette. Bonjour à mes invités donc, qui se trouvent en studio avec moi pour parler donc de généalogie, je vais sans doute arriver à le dire, j'imagine que vous aussi ça vous arrive de bégayer sur un mot pas toujours évident à prononcer. Je suis avec donc Michel Dillage, secrétaire général, bonjour.
Bonjour.
Gérard Simon, vice-président.
Bonjour.
Et le président donc, du Cercle Généalogique du Loir-et-Cher, Philippe Trestard. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en studio. Donc, on a vu passer l'information de ce forum régional de la généalogie qui se tient à Courcheverny ce dimanche. On va y revenir en fin d'émission, mais ça nous a intrigués et donné envie de nous intéresser donc, à cette discipline. Je ne sais pas comment vous l'appelez, c'est une action, comment...
Un loisir,
c'est aussi un loisir, on reviendra aussi là-dessus, qui, comme je le disais, rassemble des millions de Français autour de cette activité, parce qu'elle raconte aussi plein de choses de notre société, de notre histoire individuelle et commune. Elle ramasse beaucoup de thématiques qui sont propres à notre personnalité. Est-ce qu'on peut présenter le Cercle Généalogique du Loir-et-Cher et ses adhérents et ses utilisateurs et utilisatrices.
Tout à fait. Donc le cercle généalogique a été créé donc en 1966. C'est un cercle ancien. Il est composé de 500 adhérents. C'est un apport pour les chercheurs,
pour les passionnés. Pour les passionnés de généalogie. En fait, c'est le premier cercle de généalogie de province qui a été créé par une série de savants locaux et qui ont par la suite créé la fédération, qui a d'ailleurs été déclarée aussi à Blois comme le cercle.
Quand est-ce que, pour garder un petit peu l'historique de la création du cercle et plus largement, est-ce que vous êtes capable de remonter quand est-ce que la généalogie s'est-elle structurée en France?
Alors, elle a existé depuis longtemps, mais elle existait surtout pour les familles aristocratiques qui devaient, pour pouvoir assister à la cour, prouver des quartiers de noblesse, un certain nombre de quartiers de noblesse. Et heureusement, alors c'est resté assez longtemps un peu dans les mœurs. Au début, moi, quand j'ai adhéré au cercle généalogique, on passait un peu de château en château, où les propriétaires nous expliquaient l'histoire du château, mais aussi l'histoire de leur famille. Et voilà. Et à partir des années 70, ça s'est vraiment démocratisé, complètement, dans le Loir-et-Cher. C'est autour, avec M. Duval, surtout, qui a lancé la généalogie du peuple,
ici,
un peu. Et en fait, j'ai revu l'ancien président qui expliquait que c'était beaucoup plus sérieux à ce moment-là, parce que les gens s'appuyaient, les chercheurs, les généalogistes s'appuyaient sur des actes d'état civil officiel plutôt que sur une mémoire qui se transmettait de famille en famille et qui était parfois un peu améliorée. Ouais.
On a souvent, je crois, vous allez m'arrêter si je me trompe, tendance à restreindre la généalogie avec l'institution de l'état civil par Napoléon, je crois, quelque chose dans le genre. Est-ce qu'il y a les registres de naissance existent depuis plus longtemps que des grandes réformes structurelles des grands registres qui ont été un peu institutionnalisés à cette époque? Est-ce qu'on peut remonter plus loin que la naissance des registres, des dates, des lieux, des registres de naissance qui permettent de regarder d'où viennent les parents des parents des parents?
Tout à fait. À partir de la Révolution, donc on a la création, c'est vrai, des registres de naissance, mariage et décès.
Ouais.
Mais bien avant, il y avait les registres des églises, tenus par les curés. Et on remonte
dans le département. C'était l'église qui gérait l'état civil avant que l'état civil n'existe formellement.
Et on les appelait à cette époque-là, c'était le baptême, mariage et sépulture.
Okay.
Donc tout le monde passait à l'église. Ouais, dans le département, ça commence au XVIe siècle. Le premier, je crois, est de 1571.
Oui, je crois
le plus ancien qu'on ait, voilà.
Souvigny, je
donc,
crois que
c'était tenu par les curés. Et ça a été mis en place par décret de François Ier, qu'il a avec le comment on appelle ça, de Villers-Cotterêts, qu'il a signé en
1539.
Et donc après, il a fallu quelques décennies, le temps que les curés commence, il y a toujours un délai. Et à partir de ce moment-là, donc, on a des registres en plus ou moins bon état, qui sont arrivés jusqu'à nous.
Et donc, on peut remonter, dans le meilleur des cas, quelqu'un qui voudrait remonter le plus loin possible peut remonter jusqu'au XVIe siècle. Avant, les siècles d'avant, ça devient très compliqué.
Ça devient très compliqué.
À condition de savoir lire les actes aussi. Parce à cette époque-là, c'est vraiment compliqué, très compliqué.
Alors, on peut remonter beaucoup plus loin, parce que les familles aristocratiques ont toujours gardé leur généalogie. Mmh. D'ailleurs, quand on visite, je crois, le château de Cheverny...
N'hésitez pas à parler un peu plus près du micro.
Oh, pardon.
Merci.
Donc, quand on visite le château de Cheverny, il y a un arbre généalogique de la famille, par exemple, et ces ascendances étaient affichées, et ils ne sont pas restés qu'entre nobles. Ils ont eu des enfants, des petits-enfants qui ont fait partie du peuple, petit à petit, et donc on se raccroche, presque tous les généalogistes se raccrochent à une de ces familles qui fait remonter jusqu'à Charlemagne, voire plus. Hein.
On a l'image un peu cliché, sans doute très cinématographique, que la recherche généalogique, c'est une quête intense à base de registres poussiéreux, de cartes dactylographiées dans une écriture très ancienne, et de réponses qui soulèvent parfois beaucoup plus de questions que celles pour lesquelles on était venu. La réalité, j'imagine, elle est quand même un peu plus pragmatique que ça. Non, pas vraiment.
Pas vraiment. C'est-à-dire que ça l'a été, puisque avant qu'on ait la possibilité de consulter sur Internet, quand on a commencé sa généalogie jeune, ou il y a très longtemps, forcément, on était obligé de passer par les mairies, les archives, et donc avec des registres très poussiéreux, effectivement.
Qui n'étaient pas toujours forcément très bien tenus selon les lieux.
Alors, c'était pas trop mal tenu, à condition, comme je vous dis, déjà, il fallait pouvoir le lire, parce que quand ça commence au XVIe siècle, c'est vrai que c'est compliqué à lire. Mais même après, quand on arrive à lire, le problème, le papier était quand même très poreux. Mm-hmm. Donc, l'endroit passait sur l'envers, inversement. Mm-hmm. Donc, c'était un peu compliqué. C'est vrai que l'informatisation, ça, c'est quand même assez récent, malgré tout. Moi, pour ma part, j'ai commencé en 1989. Donc, forcément, il fallait se déplacer dans les mairies ou après aux archives départementales, dans les cimetières. Donc, c'est vrai que c'était quand même assez compliqué. On n'avait pas non plus la richesse des renseignements que l'on peut avoir maintenant avec les échanges sur les sites. À l'époque, c'était sur les registres. On n'avait pas toujours. On avait à la limite peut-être un métier, mais on n'avait pas de détails comme maintenant sur les actes. Et c'est vrai que on recherchait, mais comme on ne savait pas ce qu'on allait trouver, on était quand même, c'était toujours à la recherche de quelque chose, c'était curieux, et en même temps, la découverte, l'inconnu, et c'était intéressant.
Et c'est
quand on voit.
C'est une recherche assez longue, parce qu'en fait, on n'habite pas là où ont vécu tous nos ancêtres.
Alors,
donc
j'allais y venir.
On envoyait un courrier à une mairie en pensant que c'était là que quelqu'un était né ou s'était marié. la secrétaire de mairie, en fonction du temps qui était disponible, devait chercher, trouver l'acte, et nous répondait parfois, ben non, c'est pas dans cette commune-là. Donc on faisait le tour, peu en escargot autour, on n'avançait plus. Donc les nouvelles techniques ont un peu révolutionné ça, parce que maintenant ça va à une grande vitesse.
On y reviendra sur la numérisation et les sites nombreux de généalogie. Est-ce qu'il y a un profil type de personnes qui rentrent au cercle de généalogie du Loir-et-Cher, mais j'imagine dans une association de généalogie d'une personne où c'est vraiment des jeunes, des plus vieux, des couples, des personnes seules qui sont à la recherche de leurs origines. Est-ce qu'il y a un profil type de gens qui toquent à votre porte?
Ça a été peut-être à une époque les gens à la retraite quand même. C'est le temps que ça prend. Ça mange énormément de temps. Dès qu'on commence, de toute façon, on veut continuer, on veut savoir davantage. Et comme disait Gérard, le temps d'écrire aux mairies, de recevoir les réponses et tout ça, forcément, il fallait qu'on soit disponible. En travaillant, c'était difficile. Il fallait se déplacer. Moi, j'habitais pas ici, alors que ma famille est originaire de Loir-et-Cher. Il fallait prendre des jours pour se déplacer dans les mairies. Donc, c'est vrai que c'était plus les gens à la retraite. Et ça l'a été longtemps. Maintenant, moins quand même. Il y a un peu plus de gens quand même qui viennent vers nous. Je ne sais pas, vas-y.
Et on le conseille de ne pas attendre la retraite. Car quand on arrive à la retraite, nos grands-parents sont décédés. Souvent. Ceux qui ont les informations. Donc il faut absolument commencer de bonne heure. Après, avec les nouvelles technologies, on peut passer un peu de temps. Moi, j'ai commencé, j'étais bien sûr en activité, j'ai commencé il y a 30 ans. J'étais dans les Landes, donc loin d'ici. Parce que mes ancêtres sont ici. Donc, on en fait un peu. Et puis, il y a la vie de famille, ça va. Bon, mais au moins, on commence. On récupère les photos. On les note. Il y a quelqu'un pour nous dire qui est dessus. Ça, c'est important.
Le rapport humain et qu'on ne peut pas trouver forcément sur
transmission des générations.
Vous avez commencé à y répondre, Philippe. Qu'est-ce qui vous a motivé tous les trois à pousser la porte d'un cercle de généalogie ou à commencer des recherches généalogiques, rapidement?
Alors, moi, rapidement, moi, c'était de bonheur, c'était mon beau-père. En fait, mon beau-père avait un ancêtre qui a fait l'exploration de la Guyane. En 1850 à peu près, et donc ils avaient le même patronyme, et il avait fait c'était son père qui avait fait des recherches justement, et des recherches pour trouver la filiation avec cet explorateur Jules Crevaux, qui est un explorateur. Donc il y a eu 2-3 livres de fait, et donc c'était dans la famille, et puis ça m'a intéressé, puis je me suis dit je vais regarder un peu de mon côté, et puis c'était parti. Pour moi, c'était comme ça.
Michel. Alors moi, avec ma famille, on habitait en région parisienne et on était persuadés de ne pas avoir de famille proche. Mon père était fils unique, mes grands-parents, il y avait de la famille du côté de ma grand-mère, mais du côté de mon grand-père, pas beaucoup. Et on était sûr qu'il n'y avait pas énormément de famille. Donc quand Jean-Louis Bocarnot a écrit son premier livre...
Alors, j'ai acheté le livre. Qui est Jean-Louis Bocarnot?
Alors, Jean-Louis Bocarnot, qui est l'expert en généalogie, vraiment, c'est le maître. Il est peut-être plus tout seul, mais en tout cas, ça a été le premier, je crois, vraiment, à écrire sur la généalogie. D'accord. Et qui expliquait que, en prenant le bottin, à l'époque, le bottin de Paris, je parle d'un temps que les moins de 20 ans, n'est-ce pas? Le bottin de Paris. En prenant le bottin de Paris et en recherchant votre patronyme, s'il y en avait moins de 10... on était sûr d'être de la même souche, déjà. Donc, c'est ce que j'ai incroyable. Fait. Alors, on a commencé avec mon frère. C'est ce qu'on a fait, il y en avait moins de 10. Et encore, je vais parler d'antiquité, puisqu'on a pris le Minitel pour aller rechercher tout mon patronyme en France, département par département. Et on a contacté tout le monde. Donc, on s'est retrouvés dans le Loir-et-Cher. Puisque,
donc, une petite famille s'est élargie de coup de fil en coup de fil.
Parce que justement, parce que le Loir-et-Cher, on a retrouvé effectivement mon patronyme en Loir-et-Cher, qui correspondait avec les lieux de naissance de mon père et de mon grand-père. Et puis, c'est parti comme ça. Et donc, on a même fait prendre conscience à des gens du même nom, dans la même commune, qu'ils étaient en famille, alors qu'ils étaient sûrs de ne pas l'être. Oui. C'était drôle. Voilà.
Gérard, à vous.
Alors moi, j'avais deux grands-mères qui étaient des passionnées un peu de l'histoire ancienne et qui m'ont un peu immergé dans ce monde-là, qui m'ont raconté plein d'histoires de la famille. Et puis, voilà, ça m'a intéressé. J'ai appris que mes parents étaient cousins. Mais ils savaient pas comment. Donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ils sont cousins, mais ils savent pas, voilà. Et puis lorsque je suis parti au service militaire, donc ça fait quelques années, je me suis un peu enquiquiné au service militaire. Donc j'ai lu tout Zola. Et j'ai retracé la généalogie des Rougon-Macquart.
Voilà, donc
qui est un bel arbre généalogique.
Un sacré arbre.
Voilà. Et puis ça, j'ai continué. J'ai fouillé chez moi. J'ai trouvé des papiers. Mes parents avaient une ferme, donc il y avait les titres de propriété des terrains. Et je voyais que tel terrain était arrivé avec des noms que je connaissais pas du tout. Donc j'ai voulu savoir un peu d'où ça venait. Je suis démarré un peu comme ça. Et puis je suis resté dedans.
On voit bien avec vos trois récits, et j'imagine que ça arrive très régulièrement quand on vient vous voir, qu'on a une vision, alors évidemment de l'arbre, on part d'une personne et puis les branches poussent, voire aussi l'image moi que j'ai, c'est un peu l'entonnoir, on a quelque chose d'assez uniforme, et puis ça s'élargit vraiment très fort. C'est j'imagine, générateur parfois d'émotions, de surprises quand on consulte un registre. Un acte et qu'on découvre des choses qu'on ne soupçonnait pas, voilà, de se découvrir cousin avec des gens qu'on connaissait mais sans forcément le savoir.
Ouais, c'est sûr que là, moi je me suis découvert des cousins effectivement que j'étais loin de penser, c'est vrai, en arrivant ici. Hein. Alors au départ, la généalogie qu'on a commencé, c'était juste sur le patronyme. Et quand j'ai emménagé ici dans le département, j'ai eu la chance d'avoir, évidemment, en étant secrétaire générale du cercle, j'avais tous les documents nécessaires à la recherche après des collatéraux. Donc j'ai pratiquement recommencé, je suis repartie de zéro pour retrouver les frères, les sœurs, les cousins et tout ça. Donc forcément, et après on découvre les maladies, on découvre les mortalités énormes chez les enfants, on découvre les métiers de nos ancêtres qui étaient, bon, finalement, moi j'ai beaucoup d'ouvriers. J'ai rien du tout de noble, je n'ai que des ouvriers. Donc on peut imaginer quand même la vie de ces gens-là, comment ils vivaient. Maintenant que j'habite ici, forcément, je suis sur le terrain, puisque je marche dans les pas de mes ancêtres. Et c'est vrai que c'est émouvant de savoir et de connaître un peu la façon dont ils vivaient, et surtout dans la... Je pense dans la pauvreté quand même, hein. Enfin, en ce qui me concerne, c'était vraiment...
Pour la plupart des gens, je crois que c'était plus dans la modestie à minima.
Avec beaucoup d'enfants, des enfants qui mouraient très... Enfin, beaucoup de, je vous dis, de mortalité infantile. Tout ça, on a... Quand on le vit à travers tous ces documents, ça touche, parce qu'on est quand même dans une époque où on est à l'abri de tout ça. Enfin, on n'est pas à ce point. Donc c'est vrai que c'est quand même émouvant parce qu'on s'identifie un petit peu, on imagine. Donc en plus, ça donne envie effectivement de lire un petit peu des Michelet, des choses comme ça, des romans justement, des gens qui ont vécu, qui l'ont écrit. Donc c'est vrai que ça fait quelque chose.
J'imagine qu'il y a des temps forts dans la généalogie, les guerres mondiales, les grandes épidémies sont des marqueurs très forts d'actes de cheminement de familiaux et de migration aussi, d'installation de mouvements des familles.
Alors, il y a des temps forts comme ça qu'on peut repérer très facilement. Dans ma famille, ils ne sont pas tellement déplacés. C'est des gens qui sont restés vraiment... tout, les gens ont suivi... moi, je suis de la vallée du Cher, et ils ont vraiment suivi la vallée du Cher. J'ai commencé à Romorantin et je me suis retrouvée à la frontière de l'Indre-et-Loire. Ils sont restés là et toujours à travailler en fait pour les autres. Donc forcément, ils allaient travailler là où il y avait du travail. Et donc, ils étaient sûrement obligés effectivement d'aller chez les gens. Quand on fait d'ailleurs les recherches sur les recensements, on voit qu'à un moment donné, ils habitent dans telle famille, dans telle maison, avec les patrons, quoi, avec le voilà.
Et au niveau de comment se passe une recherche qui file vers l'international?
Alors, je pourrais difficilement en parler parce que j'en ai pas.
Moi non plus.
Vous accompagnez peut-être des gens
qui
découvrent des gens qui ont migré en France et donc dont la généalogie s'arrête un peu en France parce qu'elle existe ailleurs.
Alors d'abord, il y a des descendants de gens qui étaient pieds noirs, hein, il y a quand même pas mal en France, qui arrivent presque tous, soit de, avant d'être en Algérie, ils arrivaient soit d'Espagne, de la région de Chypre, par là, voilà. En Algérie, ils ont repeuplé ce territoire-là avec tout ce qu'ils ont pu trouver pour dominer un peu le terrain, quoi. Hein. Là, c'est relativement facile en ce qui concerne les gens comme ça qui ont eu tout de suite la nationalité française. Mais quand c'est des recherches dans d'autres pays, comme la Pologne, par exemple,
mon mari était polonais.
Avec des territoires qui se modifient, qui parfois la Pologne a disparu à certaines époques.
Frontières ont bougé beaucoup.
Ah oui. Donc ça devient très compliqué. Là, j'ai une demande pour l'Arménie. C'est pas facile pour les guider, quoi. Hein.
Après, il y a des associations. Je pense qu'il faut se tourner vers les associations du pays. Moi, mon mari était polonais, donc les recherches, j'ai quelques actes sur trois générations. Mais c'est pareil, déjà déchiffré, puisque l'orthographe, déjà, l'orthographe, l'alphabet est différent. Et les frontières, comme vous dites, ont changé. Mon beau-père était né en Pologne, mais c'est devenu l'Ukraine. Et voilà, donc...
On voit à travers vos témoignages que donc dans la généalogie, le métissage est donc important et les migrations représentent une partie non négligeable. On fait une pause musicale sur ce thème et on se retrouve juste après pour continuer cette conversation autour de la généalogie. À tout de suite.
On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part, être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Y a des oiseaux de basse-cour et des oiseaux de passage. Ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. Non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part, je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. À l'endroit où ils naissent, que les
quitter. Vous l'aurez reconnu évidemment, Maxime Le Forestier avec la chanson « Né quelque part » sur la thématique des migrations et des origines. On en parle des origines aujourd'hui donc avec trois membres du cercle de généalogie du Loir-et-Cher. On va écouter le reportage que Clémentine de Studio ZF a réalisé il y a quelques jours dans le cercle de généalogie et on va constater que il y a des gens qui viennent de loin pour travailler sur leurs origines et la recherche des ancêtres. On écoute donc ce petit reportage réalisé au cercle, in situ, au cercle de généalogie à Blois.
Alors, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous êtes en train de faire et de chercher ?
Des ancêtres, oui. Les ancêtres de madame qui sont originaires du Loir-et-Cher.
Enfin, de Touraine, en principe, et du Berry.
En partie.
Paternelle, la famille paternelle.
Donc vous ne venez pas d'ici, vous venez de loin.
De Seine-et-Marne.
Oui. Oui.
Et vous êtes venu exprès pour chercher des informations ?
Oui, c'est un loisir. C'est notre loisir principal.
Et depuis 1994, on fait que ça.
Pour commencer sa généalogie, il faut avoir des renseignements les plus proches de nous. Donc Jean-Claude Moreau, je fais de la généalogie depuis que je suis en retraite, grosso modo. Hein, et je suis le trésorier de l'association. Alors, si l'on a un livret de famille, ça nous permet de commencer. Si on n'a pas de livret de famille, là, c'est plus dur. Ensuite, il faut avoir la génération précédente, c'est-à-dire les parents, et donc les grands-parents, les arrière-grands-parents. En sachant que il y a des limites de consultation, on ne peut pas consulter tous les actes contemporains, par exemple, pour des personnes qui ne seraient pas de notre famille. Il y a un délai de communication qui est de 75 ans, c'est-à-dire que si je peux me rendre en mairie, si je cherche par exemple, le mariage de vos parents ou de vos grands-parents par exemple, s'il n'y a pas 75 ans, normalement la mairie ne doit pas me communiquer les renseignements.
Et lequel des deux a commencé ?
C'est moi. Oui, j'avais déjà posé des questions du côté maternel à mon grand-père qui m'avait parlé de l'histoire de la famille de ma mère et je voulais connaître celle de mon père.
La période la plus délicate, si on n'a pas les renseignements, c'est donc ces 75 premières années. Mais après, on a les renseignements, on les trouve soit dans les mairies, soit aux archives départementales.
Est-ce que je peux vous demander votre âge ?
J'ai 87 ans.
86 ans.
Et alors, est-ce que vous pensez que à 25 ans, par exemple, vous auriez fait ces mêmes recherches ?
Je ne savais pas exactement, mais j'avais posé des questions à mon grand-père. Déjà, je connaissais du côté de ma mère. Mon grand-père, il avait une grande mémoire. Et ça, j'y pensais toujours. Et quand on a eu un certain âge, j'en parlais à mon mari. Puis j'ai dit, il faut qu'on se lance, qu'on fasse.
Alors moi, ma généalogie personnelle, si je vous dis à la ligne directe, tout ça s'est fait. Mais je me suis mis à recomposer les familles. Alors là, j'ai trouvé plein de choses. Il y en a une famille, il y avait eu 7 ou 8 enfants. Et ils sont tous morts dans le mois qui suivait. Sauf un.
Qu'est-ce qui provoquait la mort ?
Eh bien, l'incompatibilité rhésus, facteur rhésus. Et puis j'en ai retrouvé d'autres. Et nous, on a eu 10, ça les a attirés tous les 10. Hein. Alors, ils n'avaient pas de psychologie à l'époque. Hein. Ça n'existait pas. Moi, des fois, je me dis comment ils pouvaient résister, les bonnes femmes. J'ai 10 enfants, mais là c'était facteur rhésus, ça n'avait pas à chercher. Parce qu'en dehors, après, il y a la maladie infantile, qu'on retrouve suivant les saisons. L'hiver, il y avait la grippe. Alors là, dans la grippe, il y a des fois, le père il mourait ou la mère mourait, puis un ou deux gamins. Hein. Nous, aujourd'hui, la grippe, oui. Mais en ce temps-là, la grippe, elle était mortelle. Hein.
Alors, donc, les bénévoles vont en mairie et redemandent les registres. Alors, naissance, mariage, décès. et retranscrivent sur ces fiches de couleurs différentes donc les renseignements qu'il y a sur les actes. Donc si c'est l'acte de naissance, par exemple, vous avez le nom, le prénom des parents, le jour de la naissance, sous l'Ancien Régime, les parrains, les marraines. Ensuite, les fiches sont informatisées, vérifiées et informatisées. Et puis, on sort ce que l'on appelle des registres. Et ces registres sont remis, dans la commune, si elle accepte le registre, le deuxième aux archives, et le troisième, on le garde chez nous pour que les adhérents viennent les consulter.
Alors les métiers aussi. Avec le temps, des fois au départ on ne trouve pas, mais quand on pioche un peu, on retrouve les métiers et ce que les gens faisaient à l'époque. Alors comme moi mon métier c'est couturière, tailleur d'âme, et j'ai trouvé dans mes lignées, ma grand-mère elle était lingère, donc elle faisait tout ce qui était le linge de maison, réparer les chemises, les pantalons. À son époque, on n'allait pas à la boutique chercher, fallait tout faire. Ah ben, elle faisait ça.
J'ai trouvé par exemple, du côté de ma femme, elle a deux grands-oncles qui sont allés en apprentissage à Baccarat, par exemple. Donc, malheureusement, ils sont décédés 2 ans après à la guerre de 1914. Mais bon, c'est un exemple. Je suis toujours du côté de ma femme. Il y a un de ses oncles qui avait dû arroser quelques événements et que donc il a été poursuivi un peu par la maréchaussée, quoi. Bon, c'est parce qu'on a éventuellement des récits que l'on peut retrouver sur les anciens journaux également. Donc, il faut croiser toutes ces choses-là.
Oui, justement, on se rend compte que finalement, la vie était différente de maintenant et qu'ils se déplaçaient. Ils bougeaient beaucoup, même s'ils étaient finalement que employés, ils étaient domestiques, serviteurs auprès de maîtres. Ils bougeaient, hein. On n'a pas l'impression comme ça, mais ils bougeaient plus que nous maintenant.
Est-ce que parfois on bute contre des choses ?
Ah bah oui, 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 oui.
C'est normal, il arrive un moment où on a des problèmes pour trouver plus loin. Et d'ailleurs, on est un petit peu déçu quand on arrive au bout de nos possibilités.
C'est un blocage.
Enfant naturel.
Oui, mais bon, là, on s'arrête là.
C'est instinctif de notre part. J'ai besoin de mes origines.
Déjà, on aime beaucoup l'histoire. Et puis, ça nous rassure. C'est difficile.
On découvre un peu de la famille. Hein. Ça nous fait découvrir un peu leur manière de vivre également. Ça nous fait découvrir comment ils se comportaient un peu. Et puis, c'est toujours... Dès que l'on trouve un peu quelque chose, on va dire que c'est jouissif, hein, y a rien, et on a toujours tendance à vouloir trouver plus, chercher plus, remonter plus loin, élargir les recherches dans divers domaines.
Hein. Je pense que c'est de savoir d'où on vient, quelles sont nos racines, et puis peut-être que finalement, quelque part, en vieillissant, on se rend compte qu'on fait des choses qui nous rapprochent certainement de nos anciens.
C'est un plaisir, c'est un passe-temps, hein, de toute façon.
Merci à Clémentine donc, pour ce reportage donc, qui a eu lieu il y a quelques jours au Cercle de Généalogie du Loir-et-Cher. On entend plein de témoignages qui doivent vous parler à vous trois. On entend notamment cette dame qui était couturière et qui retrouve dans ses ancêtres quelqu'un qui était lingère. Est-ce que ces parallèles-là, alors qu'ils n'ont peut-être pas grand-chose à voir, est-ce qu'on peut attribuer une fonction à un ancêtre et se retrouver dans cette même fonction ou dans une fonction similaire ? Je ne sais pas, est-ce que c'est des choses qui arrivent souvent, tout ça, voilà. La psychogénéalogie, c'est comme ça qu'on dit ?
On en parle beaucoup, oui.
Ouais.
Alors, c'est un domaine que j'aime bien. Parce que je trouve effectivement...
Chercher des correspondances dans notre ADN, mais dans notre lignée.
Ouais. Dans beaucoup de familles, il y a des situations qui se reproduisent. Et moi, j'y crois. Alors après, bon, tout le monde n'y croit pas. Ouais. Moi, je sais que je suis assez perméable à ça.
C'est à caution au sein même du cercle du Loir-et-Cher.
Tout à fait. Ouais. Enfin, moi, je suis plus cartésien, donc j'attends des exemples, des cas. Ouais. Je n'en ai pas spécialement dans ma généalogie. J'ai pas. Voilà, donc je reste sceptique.
En fait, c'est pas une science, c'est une constatation. Voilà. Hein, c'est des choses qui ont été remarquées, et ça concerne surtout des secrets de famille ou des événements très importants qui n'ont pas été transmis directement. Oralement, de génération en génération, mais à un moment, il ressurgit un événement qui en dépend. Et c'est par un traitement un peu psychologique que ça peut émerger, quoi.
Comment a fait évoluer l'arrivée du numérique et de la numérisation de tous les documents dont a besoin la généalogie pour faire évoluer la recherche d'ancêtres et d'aïeux?
On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, l'état civil et puis les registres anciens ont été numérisés et toutes les archives départementales, maintenant, les ont mises en ligne. Mm-hmm. Pour un collège, j'ai fait ça généalogie. On est passé de la Lorraine à l'Auvergne et après la Savoie dans l'après-midi. Mm-hmm. Voilà, ça, c'est déjà ça. Déjà, le gain
et
est énorme.
Et on est remonté plusieurs, un ou deux siècles très rapidement.
Oui, très rapidement. Donc, ça a un apport, ça a un dédiable. On a pu le problème du déplacement qu'on avait avant.
Oui, il fallait poser des congés pour se rendre en mairie et éplucher les
caisses. Donc de ce côté-là, pour les archives, et puis on a les archives du Loir-et-Cher viennent de mettre, on a jusqu'à 1923 maintenant en ligne. Et on a aussi, ils ont mis les tables décennales. Les tables décennales, c'est des tables de 10 ans jusqu'en 1952. Donc c'est assez proche de nous, donc on peut avoir... des informations qu'on attendait d'ailleurs, des grands-parents qui étaient dans cette tranche-là, et ben on attendait les informations, donc c'est vraiment important. Donc il y a ce côté-là des archives, alors qu'ils mettent de plus en plus de documents, qui essaient de satisfaire les généalogistes, et ils mettent à disposition, c'est leur rôle, les archives appartiennent au peuple. Voilà. Donc, et après, il y a les sites professionnels, donc on peut parler aussi, où chacun, beaucoup de généalogistes amateurs déposent leur généalogie et ça fait progresser. Tout le monde peut en prendre connaissance on progresse beaucoup.
C'est comparable aux données publiques, à l'open data, comme on dit, de quelqu'un qui poste quelque chose et dont vont saisir d'autres personnes pour élargir encore le cercle de connaissances.
Voilà, tout à fait. Donc, ça apporte, chacun apporte sa petite pierre, et puis on progresse.
J'ai l'impression que c'est des gens qui sont très structurés, avec beaucoup de passionnés et de gens très, très investis dans ces communautés-là.
Allez-y. Je voudrais faire un petit aparté, parce qu'en fait, là, on a parlé du squelette de la généalogie, c'est-à-dire uniquement les actes. Mmh. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est l'histoire de la famille. Et donc l'histoire de la famille...
On va y venir.
D'accord.
On va y venir notamment, sauf si vous avez encore des choses à rajouter sur le numérique et ce qu'il a apporté. Mais sur la famille, évidemment, on va y venir, puisque c'est aussi pour ça qu'on vous a invité. Vous avez donc dimanche un événement régional. C'est le Loir-et-Cher qui accueille donc tous les cercles, associations autour de la généalogie ici à Courchevernie ce dimanche. Avec une thématique spécifique. Et donc, on va parler de famille, puisque j'ai vu la thématique est le mariage d'autrefois, ou une des thématiques, en tout cas la mise en avant de la thématique le mariage d'autrefois. Donc c'est évidemment, on va parler famille. Mmh. Donc vous pouvez y aller.
Alors,
ça rejoint, j'imagine, les questions que j'allais vous poser sur le mariage.
Tout à fait, oui, alors il n'y a pas que le mariage. Le mariage, c'est un acte, c'est une cérémonie, c'est toute une fête qui est importante dans la vie de la famille. Mais ce qui est aussi important, c'est les transmissions, par exemple, ce dont vous parliez tout à l'heure, les dynasties, par exemple, de meuniers. C'est un peu caractéristique, parce qu'il n'y avait pas forcément d'apprentissage. L'apprentissage se faisait en famille. Et pour être un bon meunier, il y avait au moins 5 années d'apprentissage qui se faisait par le père de famille. Voilà. Et donc, ce qui était important, c'était de savoir comment ils vivaient, les contraintes qu'ils avaient, parce que la plupart des moulins appartenaient à un seigneur, ça appartenait pas aux meuniers, et donc ils étaient un peu sous la pression de ce propriétaire-là, et ils étaient aussi un peu percepteurs d'impôts, parce que il faisait rentrer de l'argent du fait de son travail, qui redonnait au seigneur local qui lui entretenait normalement une armée, des choses comme ça. Donc tout était très imbriqué, toute cette vie était très imbriquée les unes dans les autres, quoi. Et c'est ce qui est important quand on fait des recherches, on a... Ce que nous apportait quand même l'ouverture d'Internet, c'est de pouvoir avoir plein d'informations à droite, à gauche. Comme tu parlais tout à l'heure des journaux, des anciens journaux, il y a Retro News qui est un site où on retrouve les détails de la vie des gens. Par exemple, j'ai regardé l'autre fois à Auchan, un petit patelin pas très loin là, il y avait un conflit entre une institutrice et le maire, et ça a duré pendant des années, ça a impliqué plein d'autres gens qui étaient pour, qui étaient contre, voilà. Donc c'est aussi cette vie-là qui nous intéresse, quoi. Mmh.
Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver donc à ce forum régional de la généalogie avec donc cette thématique autour du mariage, mais aussi autour de l'histoire des familles, etc. Qu'est-ce que vous allez proposer au public puisque l'entrée est libre ce dimanche à Courchevernus.
L'entrée est libre. Donc le forum, comme vous l'avez dit, regroupe les associations donc de la région, c'est-à-dire principalement, enfin de l'Union généalogique
de la région centre,
de Loir-et-Cher, Val de Loire. Non, je me trompe.
Oui, on a compris.
Donc il y a une dizaine d'associations qui la composent. S'ajoute à ça donc la présence des archives départementales, des associations d'histoire locale, d'histoire de patrimoine. Nous avons aussi des généalogistes professionnels, des écrivains. Nous avons des écrivains locaux. Et donc, qui sont à la disposition pour enseigner les visiteurs. Donc, comme c'est régional, parce que la généalogie, les familles bougent un peu, on peut passer d'un département à l'autre. Donc là,
ça a plus de sens d'organiser ça à un niveau plus gros échelon que le simple échelon local, voire départemental.
Oui, voilà, bien sûr.
On fait des manifestations au niveau du département, mais dans la région et dans les autres régions, à tour de rôle, on fait un événement. Annuel. Donc cette année, c'est à nous. Donc voilà.
Eh bien, je rappelle les informations. Ce sera à Courchevernis ce dimanche 6 octobre à la salle des fêtes. Ouverture de 10h à 18h avec donc beaucoup de structures différentes, diverses et variées. Les archives, les cercles. Oui, allez-y.
Je voudrais ajouter que l'après-midi, nous avons deux conférences.
Allez-y.
Donc à 14h30, nous avons un écrivain local qui est Gérard Boutet, qui, il y a quelques années, a écrit un livre sur les mariés de Tournai, donc qui est dans le thème, le mariage d'autrefois. Donc, il fera une petite conférence, justement, sur ce thème. C'était un couple d'ancêtres qui était protestant, et donc, voilà, il va nous raconter un petit peu sur ce thème. Et la deuxième conférence est à 16h30, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est un sujet qui déplace un peu les personnes, c'est sur la psychogénéalogie. Donc, à 16h30, une conférence... par une psychogénéalogiste.
Très bien.
Voilà. Qui devrait attirer un peu de monde.
Ce sera l'occasion de se faire une idée sur la question.
Tout à fait.
Eh bien voilà, moi ça m'a donné bien envie de rouvrir le dossier que mon papa a commencé à faire sur sa généalogie du côté de la Normandie. Je ne manquerai pas l'occasion d'y jeter un œil à la prochaine occasion. Merci donc Michel Dillage, Gérard Simon et Philippe Trestard pour votre présence ici. L'émission sera à retrouver en podcast dès demain sur le site de Studio ZEF à la page de la Lorgnette. Comme chaque jeudi à la fin de la Lorgnette, c'est le journal de bord d'un élu local avec Nicolas Orgelet et Gaël Bernard. On se retrouve la semaine prochaine. À suivre évidemment l'ami Christophe avec la Roxette à 18h. Salut à tous et à toutes. Merci beaucoup.
Journal de bord d'un élu local, c'est l'épisode 126 avec notre invitée Delphine Bonamy. C'est parti. Bye. Bonjour Nicolas.
Salut Gaël.
On s'est déjà vu Nicolas.
Bah oui.
Bah oui, on se dit bonjour, mais bon. On est aux journées d'été des écolos.
Ouais.
On dit université d'été ou journée d'été ?
Journée d'été.
D'accord. Et en fait, on a commencé ce matin un cycle autour de l'alimentation, qui est passionnant d'ailleurs, hein, je peux même me permettre de vous le dire.
De me lancer des fleurs.
Non, c'est pas que toi, c'est surtout pas toi.
De te lancer des fleurs, toi, c'est ça que je voulais dire.
Bon, alors, on arrête encore une fois de dire des bêtises. On a avec nous Delphine Bonamy. Bonjour Delphine.
Bonjour.
Tu es élue à Nantes Métropole, en charge de l'agriculture et l'alimentation.
C'est ça,
ouais. Et on a aussi Hélène Menoux.
Rebonjour.
Tu es adjointe à l'alimentation et l'agriculture urbaine à Blois. Et tu es aussi ma voisine.
Eh oui.
Ouais, absolument. et on a toujours pas très loin de nous Gaël Giffard, qui est conseiller municipal délégué à l'alimentation et la restauration scolaire à la mairie des Lilas. Coucou. Alors, on continue notre cycle, donc.
Ouais.
De quoi on va parler dans cet épisode ?
Delphine, on a beaucoup parlé sur les précédents épisodes de la restauration scolaire, des enfants, de l'alimentation, mais souvent on disait, un des sujets, ça va être que ça permet aussi à des agriculteurs de s'installer avec des pratiques vertueuses, avec un revenu, mais en réalité, dire je vais faire du bio et du local, ça suffit pas. On peut le dire clairement, à ce que tout de suite ça soit une solution miracle et que les agriculteurs s'installent. Et sur la métropole de Nantes, vous faites beaucoup de choses pour permettre l'installation et faciliter l'installation des agriculteurs. Est-ce que tu peux nous dire un peu, nous expliquer ce que vous mettez en œuvre pour ça ?
Ouais, complètement. Bah, c'est sûr que pour qu'il y ait du bio et du local dans nos cantines, il faut des agriculteurs et des agriculteurs qui gagnent leur vie. Donc sur la métropole déjà, on continue à protéger les terres agricoles puisqu'il y a aussi beaucoup de demandes de foncier pour du logement, des équipements, etc. Donc déjà la première chose, c'est de protéger le foncier agricole. Donc c'est ce qu'on fait avec notamment le département où on met en place des zones, des périmètres de protection foncière qui figent le foncier en zone agricole, qu'on ne pourra pas bouger même avec des changements de mandature, des changements d'élus, on ne pourra pas bouger.
Qu'est-ce
ça restera.
Qui figeait, c'est le
zonage agricole.
Ça
ne reviendra pas à de l'urbanisation. Ah, voilà, ou en tout cas, c'est très très compliqué pour revenir en arrière. Donc ça, c'est des zones qu'on étend de plus en plus sur la métropole. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on essaye de faciliter l'installation, notamment par exemple en achetant des terres pour permettre à des agriculteurs de s'installer qui ne peuvent pas se le permettre, et aussi des logements, puisque ici sur notre territoire, c'est souvent le logement qui coûte cher à reprendre en zone périurbaine. Les prix sont assez élevés et les jeunes agriculteurs qui ne sont pas issus du milieu agricole ont souvent cette problématique. Donc voilà, on commence à acquérir des logements qu'après on loue avec un bailleur social. Et on fonctionne comme ça pour essayer de faciliter les installations.
C'est vraiment la question de l'accès au foncier finalement, hein, qui est un vrai sujet. Nous, on n'a pas la même pression sur les loyers, hein, parce que Nantes, c'est quand même particulier. C'est vrai que vous avez un coût de loyer qui s'envole ou un coût d'achat des maisons pour devenir propriétaire qui est assez difficile. Mais par contre, sur l'accès au foncier, c'est un sujet qui se pose partout en France. Hein. On a énormément d'agriculteurs qui partent à la retraite. Peu de gens pour reprendre et souvent ça part à l'agrandissement. Nous on a la Beauce, alors la Beauce souvent ça va plutôt partir à l'agrandissement pour faire des grandes fermes et donc on a besoin, je pense, d'une politique foncière qui nous manque encore. Mais voilà, c'est assez inspirant. Pour autant, ce qu'on a pu mettre en œuvre dans le projet alimentaire territorial, c'est notamment des recensements de friches agricoles, où on va faire un recensement des friches agricoles avec la SAFER, et puis après, on travaille avec les communes.
La SAFER, c'est quoi ?
Ben, c'est les personnes, quand il y a
une vente de parcelles,
vont pouvoir préempter pour pouvoir la mettre à disposition d'un agriculteur.
Merci.
Et donc, on a la SAFER, les communes avec lesquelles on va repérer des friches, et puis les différents syndicats agricoles terre de liens qui travaillent pour repérer des porteurs de projets et les installer. Est-ce que vous avez un système un peu comme ça pour, de mise en lien entre un foncier qui se libère et puis des gens qui repèrent des porteurs de projets pour les installer?
Oui, complètement. On a une sorte de commission. Voilà, dans les collectivités, on aime bien les commissions en tout genre. Donc on a une commission où il y a justement tous les partenaires agricoles, la SAFER dont tu parles, et les porteurs de projets, les nouveaux porteurs de projets, et on les aide à trouver le meilleur foncier qui correspond à leur exploitation. Ça, c'est une chose qu'on met en place et qui marche bien, et on accompagne plusieurs dizaines d'agriculteurs ou d'agricultrices sur la recherche de foncier. Ce qu'on a mis aussi en place sur notre territoire sont des espaces tests. Alors, il y en a en maraîchage qui existent, donc les agriculteurs ou les agricultrices peuvent tester pendant une année, accompagnés évidemment par une structure agricole, leur exploitation pour voir se former. C'est un peu comme une petite pépinière d'entreprise, quoi. C'est l'idée de se tester pendant une année. Et on développe le projet de faire la même chose pour l'élevage, puisque sur notre territoire, on a beaucoup de bocages et de zones humides, donc des éleveurs en extensif. Et aujourd'hui, les fermes où c'est le plus difficile à reprendre, à transmettre, ce sont les fermes d'élevage. Donc on se dit qu'avec cet espace test, ça permettra aussi aux jeunes de pouvoir se familiariser tranquillement et tester, voir si ça leur convient.
Ouais, c'est vrai que nous, l'élevage, c'est aussi un vrai sujet. Hein. On a une nécessité d'accompagner l'élevage, notamment sur la protection de l'eau potable. Le fait d'avoir, à un moment donné, du pâturage, ça permet de maintenir des prairies permanentes, d'avoir des haies. Et finalement, un élevage à l'herbe extensif, c'est quelque chose qui participe de protéger l'eau. On va faire de l'accompagnement d'élevage, nous, pour l'instant, plutôt sur... Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore mis en place. Par contre, on a un espace test maraîcher qui a très, très bien fonctionné à Blois, en quartier Vienne, où c'est la partie de Loire qui a l'ambiance, justement, maraîchère qui ressort le plus. C'est un beau quartier, je te conseille de visiter. Et ça a permis d'installer beaucoup de maraîchers. Masato Fujisaki qui fait des légumes asiatiques, on a quelqu'un aussi qui s'est installé pour produire des fleurs, Marie Vaquet dernièrement, une personne qui s'est installée pour faire des plantes aromatiques et médicinales, donc ça fonctionne vraiment très bien, mais c'est le hasard qui fait qu'on a eu du foncier, c'est-à-dire que c'est le fait d'être en zone inondable qui fait que ce foncier n'était plus à construire et du coup il est parti comme ça. C'est pas une stratégie foncière vraiment. Et je me demande comment toi tu je pense qu'on a un enjeu, nous, avoir une stratégie foncière, à dire où est-ce qu'on achète, pourquoi on achète, et de repartir sur de l'achat de terre. Comment tu choisis les endroits où tu vas acheter? Est-ce que c'est à l'opportunité? Est-ce que tu as une carte où tu vas dire ces lieux-là sont stratégiques? Comment on construit une stratégie foncière?
Alors, en fait, c'est vrai que nous, on avait un projet alimentaire de territoire qui était là depuis quelques années, qui fonctionnait bien. Et moi, quand je suis devenue élue, j'ai repéré quels pouvaient être les leviers. Et le foncier, en effet, en était un qui n'était pas forcément exploité en tant que tel. Donc, j'ai fait voter une stratégie foncière agricole spécifique avec les volets dont on a un peu parlé, la protection et l'acquisition notamment. Et alors comment on repère? En fait, on a mis en place des groupes locaux. On a évidemment un diagnostic agricole qui nous dit quels sont les territoires à enjeu. Et après, par zone de territoire, on a mis en place des groupes locaux avec évidemment la Chambre d'agriculture, mais aussi le groupement des agriculteurs biologiques, la SAFER, enfin voilà, les partenaires agricoles divers mais classiques qu'on retrouve sur un territoire, et les agriculteurs, pour savoir sur chaque territoire quels étaient les enjeux principaux. Donc on a des territoires où c'est vraiment la partie élevage qui est vraiment prédominante et sur lesquelles on a des problématiques de transmission. Donc là, on a repéré ça comme ça. On a une partie au sud où c'est plutôt la vigne avec des espaces de friche qui se développent. Donc là, c'est plus des nouvelles installations, c'est pas de la transmission, c'est déjà c'est déjà parti en friche. Et donc, il faut des outils un petit peu différents. Voilà, c'est à partir d'un diagnostic et de la concertation des différents acteurs où on a territorialisé un peu les enjeux pour savoir après, dès qu'il y a un foncier qui se libère, qu'est-ce qu'on fait.
Et vous préemptez ou vous avez un PEAN
C'est quoi un PEAN?
Un PEAN, c'est... Eh ben, en fait, justement, c'est quelque chose que j'aimerais réussir à mettre en place dans le cadre de la révision de notre schéma de cohérence territoriale, un autre gros mot, parce que, qui va permettre de protéger des zones agricoles ou naturelles dans des espaces périurbains où il y a beaucoup de pression foncière. Et contrairement à une zone agricole protégée où juste tu dis je fiche ce territoire-là, il restera agricole, il n'est plus à l'urbanisation, dans un PEAN, tu as un plan d'action derrière. C'est-à-dire tu vas dire je fiche ça pour que ça reste agricole, mais je vais mettre en place un ensemble d'actions pour faciliter par exemple l'installation de gens. Et tu dis quelles actions tu vas mettre en place pour faciliter cette installation, pour quel type d'agriculture, etc.
Exactement. Donc ça, c'est une des... On a ça, c'est ce que je te disais en début d'émission. Le périmètre, nous, ça s'appelle un PEAN. Et là où il est intéressant, donc on en a déjà un périmètre. Là, on vient d'en voter un deuxième et il y a un troisième qui est demandé. Donc à la fin, on aura peut-être... on va dire d'ici la fin du mandat et peut-être un peu plus loin, on aura, je pense, peut-être les deux tiers de la métropole qui seront couverts par ce périmètre.
Là, je suis jaloux.
Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça donne le droit de préemption à l'intérieur de ce périmètre qui permet de contourner la SAFER.
Et un autre endroit où on peut avoir un droit de préemption, c'est justement les zones de captage en eau potable. C'est-à-dire, quand tu as un captage, c'est-à-dire un forage dans lequel tu vas chercher l'eau pour produire de l'eau potable pour les habitants, le périmètre qui l'entoure, on peut, si on le souhaite, faire de la préemption pour pouvoir installer des gens, par exemple, en agriculture biologique pour éviter des pollutions diffuses aux nitrates ou aux herbicides majoritairement afin de protéger la qualité de l'eau. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne met pas encore en œuvre. Et je pense aussi que c'est une vraie piste pour nous pour pouvoir protéger sur le temps long notre qualité d'eau. Mais ça se fait évidemment en concertation avec les différentes organisations agricoles et les citoyens.
C'est d'une importance capitale.
C'est sûr, on a un vrai enjeu là-dessus. Vous aussi, vous avez des enjeux sur l'eau assez forts, sur la préservation de la qualité de l'eau?
On l'a forcément comme vous. Après, nous, on prélève la plupart de notre eau dans la Loire. Donc, c'est un peu différent. Sur le territoire de la métropole, les questions de captage sont un peu moins importantes, mais malgré tout... c'est un enjeu essentiel et dans notre plan alimentaire territorial, on s'était fixé comme objectif d'atteindre 50% de surface et d'exploitation en bio. On est à 30%, donc on a absolument besoin de maîtriser un peu le foncier et les installations pour aller vers ce 50%.
Une autre chose pour terminer qui m'a interpellé, c'est que tu disais que tu soutiens beaucoup l'élevage. Nous, on soutient aussi l'élevage. On a soutenu des bergers pour des brebis solognottes en bord de Loire. Ça nous permet d'entretenir les bords de Loire plutôt que de le faire à la faucheuse. On le fait avec des animaux. Ça crée un lien à l'animal pour les enfants qui font la Loire à vélo et les familles. Ça entretient autrement qu'avec du thermique et aussi ça relance une filière viande qui est intéressante mais qui est dure à soutenir localement. Et puis l'autre chose et l'autre raison de ce soutien, c'est la préservation d'une biodiversité qui ne soit pas une biodiversité sauvage, mais d'une biodiversité cultivée. C'est-à-dire qu'on a plusieurs espèces anciennes d'animaux, des espèces anciennes de graines, et tout ça, ça a tendance à disparaître. Et c'est une vraie perte, même pour notre capacité à s'adapter. Est-ce que toi, dans ton territoire, tu as ce type de politique publique? Et est-ce que tu peux nous dire un mot de ce qui peut se mettre en place sur ces sujets-là?
Oui, complètement. Alors, je soutiens beaucoup l'élevage avec des guillemets, c'est-à-dire que en tant qu'écologiste, je pense qu'il faut réduire l'élevage de façon globale, mais après, il faut regarder territoire par territoire et surtout l'élevage qui va à l'exportation. Mais en effet, sur nos territoires, l'élevage extensif qui entretient nos prairies humides et la biodiversité, sachant que les prairies humides, ce sont nos puits de carbone sur nos territoires, on a besoin de cet élevage qui est vertueux et qui produit, qui nous permet de produire de la viande de très bonne qualité qu'on essaye de mettre dans nos cantines. Donc sur notre territoire, on a notamment les vaches nantaises qui sont justement une race ancienne, rustique, qui avait été presque totalement abandonnée quand on est passé dans la phase industrielle où on a sélectionné celles qui étaient les plus productives et qui a donc été sauvée par notamment l'association des vaches nantaises. Et aujourd'hui, donc ces vaches se retrouvent à entretenir comme chez vous des espaces de bocage et de prairies sur la métropole de plus en plus. C'est eux qui portent aussi avec la SIAP l'espace test élevage pour justement former des nouveaux éleveurs et éleveuses qui vont s'occuper de ces vaches nantaises, vaches qui aujourd'hui produisent de la viande et ils sont encore en train de travailler à pouvoir entre guillemets ressusciter la souche qui produit elle du lait qui a été quasiment perdu. Donc voilà, on est en soutien aussi de cette association via notamment le projet d'espace test et d'un lieu qui s'appellerait l'étable nantaise qui viendrait abriter ces troupeaux de vaches en hiver qui au printemps et l'été pâturent un petit peu partout sur la métropole.
Je te remercie pour ce témoignage. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de tous vous avoir autour de la table parce que c'est une belle équipe. Il y a une belle équipe alimentation.
Vous connaissez comment ?
Et justement, il y a une belle équipe alimentation chez Écolo parce que au JDE, aux journées d'été des écologistes, on a pu se rencontrer, mais aussi sur des lieux, au salon de l'agriculture, chez 1 plus bio, en allant visiter les cantines des uns et des autres pour voir comment ça se passe, les territoires des uns et des autres, faire des voyages d'études, et ça nous inspire beaucoup. Et il y a une très bonne ambiance.
Ouais.
Et un très
bon. On se soutient beaucoup, c'est vraiment hyper ressourçant et ça aide beaucoup en tant qu'élu de réussir à partager, à lever nos propres freins et à s'inspirer des uns et des autres. Donc c'est très précieux.
Et ça donne de l'énergie. Voilà.
Mmh. Génial. Et on finit là-dessus. Merci beaucoup.
Merci.
À bientôt.
Merci, Delphine. Tu t'appelles Nico.
Et tu t'appelles Gaël.
Tu es l'élu bavard.
Et toi, t'es le compère réalisateur.
Ouais, exactement. On est mi-mandat, Nicolas.
Déjà, 100 épisodes, c'est dingue.
Ouais, et si jamais vous vous posez des questions sur notre podcast, on a un hors-série qui s'appelle « C'est quoi journal de bord d'un élu local ?» Vous le trouverez entre l'épisode 79 et l'épisode 80.
Et puis, vous pouvez vous abonner à nos podcasts sur toutes les plateformes.
Apple Podcasts.
Deezer, Spotify, tout ça, tout ça. Et on a un site internet dédié sur Ocha.
Et vous pouvez également nous trouver sur le site Blois Capital. Et on est aussi diffusé sur Studio ZEF.
Agitateur de fréquence.
C'est sur 91.1 dans l'émission La Lorgnette.
Avec Thomas et Clémentine.
Ouais, c'est chaque jeudi à 17h.
Et on remercie aussi Julien Soula.
Pour le graphisme.
Et puis Clément Horry.
Pour la musique.
Elle est trop top.
Ouais, tout ça nous accompagne beaucoup. Et alors,
nous met de bonne humeur.
Merci à vous aussi d'écouter. N'hésitez pas à nous faire des retours sur les épisodes, à les partager, à les commenter et à en parler autour de vous.
On se dit à tout de suite sur le prochain épisode.